Bonsoir, bienvenue dans les bulles nomades, le streetcast optimiste. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu plus en détail de la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux, et plus globalement, ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est à la suite de la session de questions-réponses de printemps 2019 que j'ai eu envie d'approfondir le sujet, parce que je vous avais un petit peu parlé de la question d'acheter ou pas de la pub sur Instagram en tant qu'artiste, indé, etc. Et où j'avais expliqué que ce qui me pose problème avec ce concept-là, c'est qu'on monétise le lien humain. En gros, une marque qui veut trouver une audience doit payer de la pub, d'un côté, et une personne potentiellement intéressée par cette marque va la découvrir via la pub en question, parce que sinon les algorithmes empêchent la marque d'être visible. Et ça, c'est la monétisation du lien humain. Et du coup, suite à ces réflexions-là, j'ai voulu parler un peu plus en détail, en fait, aborder un peu plus en détail ce sujet. Donc le sujet de l'économie de l'attention dans les réseaux sociaux. Donc l'attention, notre attention, c'est ce qu'on donne aux réseaux sociaux, que l'auteur Lionel Davoust appelle très justement, je trouve, les réseaux commerciaux. Donc en gros, le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, c'est de l'attention qu'on leur donne. Et pourquoi on parle d'économie de l'attention? Pourquoi c'est une économie? Parce que les réseaux sociaux en question, les réseaux commerciaux en question, vendent ensuite cette attention sous forme de pub à des annonceurs. C'est sur le dos de notre attention que ces réseaux sociaux se font de l'argent en vendant des espaces publicitaires à une petite marque qui, autrement à cause des algorithmes, n'aurait pas accès aux liens avec nous en direct. Donc à travers l'économie de l'attention, les réseaux sociaux cherchent à contrôler nos liens avec autrui et cherchent à forcer la visibilité d'annonceurs capables de payer très cher leurs pubs, donc vous allez les voir dans votre feed même si vous n'en avez rien à faire, pendant que les indés galèrent de plus en plus à émerger dans un milieu où les algorithmes sont de plus en plus punitifs. En parlant d'algorithmes punitifs, je ne sais pas si vous êtes au courant par exemple, mais une page Facebook qui publie un nouveau post sera vue par seulement 2 à 4% des gens qui sont déjà abonnés à la page. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 2 à 4% des gens qui veulent voir vos publications puisque se sont déjà abonnés à votre page, ils vous connaissent déjà, et ben non, ils vont pas pouvoir voir votre publication à part 2 à 4%. Parce que l'algorithme empêche cette visibilité pour pousser les professionnels à payer de la pub sur Facebook. Alors, je vais pas refaire le monde dans la bulle d'aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Par contre, en tant qu'artiste indépendante moi-même, et dans le cadre du voyage créatif où je vous parle de partage authentique et de création de liens humains et de communication simple, etc., je me pose la question de comment nous toutes et toutes, consommateurs et consommatrices de ces réseaux sociaux, on peut agir pour résister à cette économie de l'attention et comment on peut trouver notre place en accord avec nos valeurs dans un système qui monétise le lien humain quelque part. Alors déjà, pourquoi faudrait-il résister à l'économie de l'attention? Là, c'est à vous d'apporter votre propre réponse hein, en fonction de vos valeurs. Personnellement, je vois deux problèmes principaux, même s'il y en a plus que ça. Le premier problème principal, c'est que les réseaux sociaux dans l'usage quotidien sont conçus pour nous faire revenir souvent dessus et nous faire rester dessus le plus longtemps possible une fois qu'on y est. Ce qui nous vole concrètement notre temps, notre énergie et nos connexions réelles avec les amis ou les membres de la famille qui sont présents avec nous dans l'espace réel. Donc on passe plus de temps sur notre téléphone à se faire voler notre attention plutôt qu'à être là présent dans notre vie en fait et dans les moments dont on pourrait profiter là où on est ici et maintenant. Donc je sais pas pour vous, mais moi personnellement, je n'ai pas particulièrement envie de passer 5 heures par semaine sur Instagram. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie, hein. Par exemple, enregistrer des podcasts, lire un bon livre, écrire une histoire de SF optimiste ou dîner avec mon petit mari que j'aime. Le deuxième problème pour moi, ce sont ces fameux algorithmes qui nous proposent uniquement ce qu'on aime déjà, ce qu'on suit déjà, avec quoi on s'engage déjà. Et je trouve que ça réduit énormément notre vision du monde. En 2016, par exemple, il avait été dit que les citadins un petit peu de gauche, alors je mets des gros guillemets, hein, gauche façon US, hein, les démocrates, n'avaient pas vu venir l'élection de Trump parce que dans leur petite bulle algorithmique composée de personnes qui partageaient leurs opinions, ils n'avaient pas de supporters de Trump et du coup leur cerveau avait extrapolé que tous les Américains devaient penser pareil et que du coup Trump ne se ferait jamais élire. Donc là, je vous donne un exemple politique, un gros exemple que tout le monde connaît. Mais c'est pour illustrer le danger des algorithmes. C'est-à-dire que quel que soit le sujet dont on parle, si on est enfermé dans notre petite bulle, où on n'est que dans les sujets qui nous intéressent déjà, et on n'est que avec des gens qui pensent comme nous, on risque de croire que le reste du monde est comme notre petite bulle, et on risque d'étrécir notre ouverture d'esprit, ce que je trouve un petit peu dommage. Alors, il y a plein d'autres sujets à soulever sur pourquoi résister à l'économie de l'attention, par exemple le fait que, à mon sens, le lien humain n'a pas lieu d'être monétisé, mais on aura l'occasion d'en reparler si le sujet vous intéresse. Pour terminer la bulle d'aujourd'hui, je voulais aborder la question de comment résister à l'économie de l'attention. Donc se plaindre, c'est une chose, mais la raison pour laquelle j'aime l'optimisme, c'est que ça favorise un état d'esprit plutôt constructif, et du coup j'ai envie de terminer la bulle nomade sur une note constructive. Alors une question centrale que je me pose dans la vie, c'est comment incarner qui je suis? Comment incarner mes valeurs et ma voix VOIX dans la société telle qu'elle est aujourd'hui et avec laquelle je ne suis pas toujours d'accord? Dans le livre How to do nothing, qui signifie comment ne rien faire, Jenny Odell parle de la notion de désobéissance civile, par exemple, qui est une notion que je trouve très très intéressante. On en reparlera un autre jour, mais si ça vous intéresse, je vous invite aussi à découvrir ou redécouvrir Henri David Thoreau, qui avait écrit, je crois qu'ils ont publié en français un extrait de son bouquin qui s'appelle Walden ou la vie dans les bois, qui s'appelle je vivais seul dans les bois ou un truc comme ça. Regardez, c'est dans les collections à 2€, là, les collections poche à 2€, où il parle justement de désobéissance civile et de comment il est allé construire une cabane dans les bois pour pas payer de loyer, pour pas travailler, pour pas dépendre finalement de l'économie capitaliste. C'est très très intéressant. Mais c'est un sujet hyper hyper vaste qui mérite sa bulle nomade à lui tout seul si ça vous intéresse. Dans le cas des réseaux sociaux, qui est le sujet d'aujourd'hui, on pourrait effectivement les boycotter. Et d'ailleurs, de plus en plus de personnes font ce choix-là. Par exemple, j'admire beaucoup l'éditeur La Volte, qui a quitté les fameux réseaux commerciaux pour rejoindre des alternatives décentralisées. Je trouve ça très courageux, puis très en ligne avec leurs valeurs un petit peu engagées autour de tout ça. Franchement, c'est vraiment un modèle pour moi, je les admire beaucoup. Mais nous ne pouvons pas tous et toutes se permettre ce genre de décision. En tant qu'artiste indépendante, par exemple, et je pense que mon art n'est pas le seul à être touché par la question, si je veux engager la conversation avec vous, qui écoutez le podcast en ce moment, si je veux trouver une audience qui est sensible à mes valeurs, à ma voix, à mes histoires, etc., eh bien aujourd'hui, c'est à travers ces réseaux commerciaux que je peux les atteindre. Parce que c'est là que sont la plupart des personnes. Et même pour quelqu'un qui ne cherche pas à rassembler d'audience ou qui ne cherche pas à toucher un public en particulier, aujourd'hui, la majorité d'entre nous avons des groupes d'amis et des membres de la famille disséminés ici et là, et la meilleure manière de garder le contact reste les réseaux sociaux les plus populaires. Je sais que par exemple, moi je connais des gens que j'ai rencontrés au Japon quand j'étais en voyage d'études, qui habitent en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Suède, etc. Si j'avais pas Facebook, j'aurais plus de nouvelles depuis 10 ans, quoi. Donc du coup, quand on est dans une situation où on a quand même une utilité à ces réseaux sociaux, quelles sont les alternatives ? Alors premièrement, on en a déjà parlé dans le cadre d'une vie plus slow, on peut reprendre le contrôle sur l'usage des réseaux en les consultant peu souvent, uniquement quand on l'a décidé, en désactivant les notifications, et puis en laissant le téléphone dans une poche, voire dans une autre pièce, pendant qu'on socialise avec nos proches. C'est-à-dire quelque part, on se laisse plus happer par tous ces mécanismes qui visent à happer notre attention et on reprend le contrôle sur la consommation de ces outils que sont les réseaux sociaux. Ça, c'est une première chose. Un autre élément qui m'aide beaucoup en tant qu'indépendante, c'est de ne pas me focaliser sur les chiffres, mais alors pas du tout. Je me focalise plutôt sur les messages que je transmets, sur la qualité de ce que j'apporte via les réseaux, sur les échanges avec celles et ceux qui me laissent des messages et des commentaires. Ce qui compte finalement, c'est la qualité des liens tissés, et non pas le chiffre sur le profil. Et cet état d'esprit-là, qui est un état d'esprit de qualité et de connexion, ça permet de désamorcer tout un tas de comportements presque instinctifs en fait, autour de la comparaison, de la confiance en soi, quand on commence à comparer nos chiffres avec les chiffres des autres, etc. etc. Donc ça permet d'assainir un petit peu le rapport aux réseaux sociaux, et en tout cas moi personnellement, ça m'est très très utile pour avoir une relation plus saine avec notamment Instagram, Twitter, etc. Enfin, dans les alternatives possibles, je m'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle la Fediverse, qui sont tous ces réseaux et services open source et décentralisés, sans avoir une entreprise en fait qui possède le tout, et qui est du coup sans algorithme et sans pub. Par exemple, je me suis inscrite sur Mastodon, M-A-S-T-O-D-O-N, qui est grosso modo une alternative à Twitter, mais avec des instances et des serveurs. Et bon, voilà. Mes pouettes, alors oui, ça s'appelle un pouette, j'adore. Mes pouettes touchent très peu de monde par rapport à mes tweets, hein. Je dois avoir 6 ou 7 personnes qui me suivent sur Mastodon au moment où j'enregistre cet épisode. Mais j'aime beaucoup cette plateforme, sans la petite bulle d'algorithme, où on peut farfouiller, où on peut se laisser guider par la curiosité. Quelque part, on revient à cet internet des années 2000, où on cliquait sur un truc et ça nous amenait ailleurs, et où on cherchait, où on partait dans des choses, on découvrait des trucs extraordinaires. Et j'ai l'impression de retrouver un petit peu ça avec Mastodon, donc je vous invite à découvrir ce réseau-là si ça vous intéresse. Et si vous en avez envie, rejoignez-moi. Alors je suis sur l'instance de la quadrature du net, mais il en existe beaucoup d'autres, et il est toujours possible de se suivre entre instances. Donc j'ai laissé le lien vers mon profil dans les notes de l'émission, donc n'hésitez pas à jeter un œil si c'est une alternative qui vous intéresse. D'ailleurs, en farfouillant dans tout ce petit monde libre, j'ai vu qu'il existait aussi des plateformes de photos, de blogging, de vidéos et encore plus sur la fée diverse. Du coup, je pense que je vais m'y plonger de plus en plus. Surtout dans un cadre, alors on en a peu parlé aujourd'hui, mais c'est aussi un sujet, c'est que les entreprises qui possèdent les réseaux sociaux ne se gênent pas pour proposer, ou pour imposer, des conditions d'utilisation de plus en plus douteuses en ce qui concerne notre vie privée et en ce qui concerne le droit d'auteur de ce qu'on poste sur les réseaux sociaux. Du coup, ça peut être intéressant de regarder un petit peu toutes ces alternatives pour tout ce qui est utilisation pour l'art, donc pour poster des photos, pour poster de la microfiction, ce genre de choses. Ça peut être pas mal de passer par des réseaux libres d'accès, par des réseaux qui sont complètement décentralisés et pour lesquels on n'a pas à céder nos droits, nos données, etc. pour avoir le droit de les utiliser. Voilà, donc si toutes ces informations, si toutes ces réflexions vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous les notes de l'émission sur floriteller.com/bn104 ou à me contacter, ironiquement, sur les réseaux sociaux, essentiellement Instagram et Twitter, @floriteller, F-L-O-R-I-E-T-E-2-L-E-R. Ou vous pouvez me rejoindre donc sur Mastodon. Le lien vers mon profil est dans les notes de l'émission. En attendant, j'espère que cette bulle vous a plu. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !